Résumer en quelques dizaines de minutes une saison à l'Opéra de Dijon, auditorium et grand théâtre, c'est presque mission impossible. Et pourtant, c'est ce que nous allons essayer de faire avec vous, Dominique Pitoiset. Vous êtes le directeur général de la maison. Il y a déjà eu quelques concerts, mais est-ce qu'on peut dire tout de même que c'est avec la venue de William Christie, dimanche, avec les Arts Florissants, pour l'Ariodante de Handel, que commence vraiment la saison d'opéra?
Concernant la question lyrique, certainement, alors que la saison de l'Opéra de Dijon a débuté le 8 septembre par des concerts symphoniques, concerts classiques, mais également nouveau cirque, musique du monde et danse. Donc c'est un programme très éclectique que nous proposons autour de la colonne vertébrale de notre activité, qui est l'opéra. La principale activité de production.
C'est éclectisme ou ouverture?
C'est une ouverture avec des entrées dans le champ du spectacle vivant qui sont multiples, hormis le théâtre, puisque nous avons ici à Dijon un centre dramatique qui fonctionne bien et avec lequel nous ne sommes certainement pas en concurrence. Donc nous ne proposons pas de théâtre ici, hormis quelquefois un peu de théâtre musical ou des titres associés avec des partenaires extérieurs, puisqu'il y a toute une politique de partenariat avec des associations, mais également avec les lieux labellisés ou les lieux conventionnés de la métropole et de la région.
Région, on pense évidemment à Besançon, que ce soit le Festival international de musique de début septembre ou les échanges entre Dijon et Besançon qui, enfin, prennent un peu plus vie.
Si, prennent vie. Non, vous avez bien raison de le souligner. Puisqu'il y a un partenariat avec les deux scènes, c'est-à-dire la scène nationale de Besançon, le festival de Besançon, et nous avons des activités également avec la Saline d'Arquesnans. Donc nos partenariats à l'échelle de la grande région côté Franche-Comté sont désormais actifs et sont complices et complémentaires, je l'espère, puisque nous recevons également l'orchestre Victor Hugo, alors que notre orchestre Dijon-Bourgogne s'exporte. Donc toute cette circulation d'idées, de talents est un très bon signe pour l'avenir, sachant que la proximité sera certainement un de nos recours en termes de, pas seulement d'émergence, mais en termes de production. Parce que les temps peuvent être difficiles, donc il faut savoir anticiper un certain nombre d'orages à venir, en croisant les doigts malgré tout et en se bagarrant pour que cette réalité soit tout autre.
Revenons à l'Ariodante donc de dimanche prochain, William Christie, les Arts Florissants. C'est le prestige, c'est quoi ?
C'est la qualité surtout, parce que il y a à la fois ce chef-d'œuvre de George Friedrich Händel. C'est très important d'avoir une programmation de musique dite baroque de grande qualité dans notre conque acoustique auditorium de Dijon, qui est une, je le rappelle, qui est une des plus fameuses en Europe aujourd'hui. Et où les musiciens de grand renom aiment aussi se produire. Donc William Christie sera là avec les Arts Florissants, dans une mise en espace de Nicolas Briançon, avec la formidable Léa de Sandre. Mais j'ai malheureusement une relative mauvaise nouvelle, pour nous c'est une bonne, mais il reste encore très très peu de place, voire plus du tout. Mais sait-on jamais, en s'inscrivant sur liste d'attente, peut-être qu'il y aura au dernier moment possibilité d'attraper un billet au vol. Mais l'Opéra de Dijon va bien, nous affichons de plus en plus souvent complet, Je signalerai des titres sur lesquels il y a encore de la marge, pour des raisons différentes, puisque nous avons plus de représentations dans le domaine purement lyrique, mise en scène. Là, c'est une date, et quand vous avez le grand maestro Christy à la baguette, il est difficile, évidemment, de ne pas anticiper. Et nous jouons tout notre rôle, puisqu'il y a à la fois comment accompagner et favoriser l'émergence de nouveaux talents, reconnus ou moins reconnus. Il y a la consécration des générations précédentes avec des grandes personnalités à rayonnement fort. Et puis, il y a la possibilité d'aller chercher du côté d'autres propositions publiques ou de favoriser des présences. Je pense par exemple à l'Orchestre français des jeunes dont nous reparlerons, qui sera à l'affiche d'un point de vue symphonique cette saison, puisque nous sommes maintenant associés. C'est une association tripartite, puisqu'il y a à la fois la Saline d'Arquesnan pour les résidences d'été, l'Opéra de Dijon pour les résidences d'hiver, et l'Orchestre français des jeunes en qualité d'orchestre symphonique, philharmonique, composé de jeunes talents qui ont été recrutés, repérés, et qui sont désormais en résidence chez nous. Donc c'est une très bonne chose. Nous aborderons la question lyrique avec eux dès la saison prochaine, mais tenons-nous-en pour l'instant au programme de cette saison.
Extrait de L'Ariodante, donc Handel. Dominique Peters, on essaie d'avancer.
Je peux poursuivre en signalant que nous aurons très peu de temps après, pour les déçus, mais une très belle production du Fidelio de Ludwig van Beethoven, à ne pas manquer pour les mélomanes, déjà parce que il y aura Adrien Perruchon à la baguette.
Mais à la différence du concert de William Christie et Handel, je dirais pas que c'est une production locale parce que ça semblerait la minimiser, mais cette fois c'est l'Orchestre Dijon-Bourgogne aussi, c'est les chœurs de l'Opéra de Dijon et les solistes.
C'est surtout, oui, évidemment, nous sommes dans une maison qui génère de la permanence artistique ou qui est via convention liée à un orchestre qui est l'Orchestre Dijon-Bourgogne, dont nous avons revu finalement la participation à l'occasion de mon arrivée, à savoir qu'ils sont désormais principalement un orchestre de fausse, c'est-à-dire de production lyrique. Là, nous les invitons à être dans la fosse pour ce Fidelio de Beethoven. La barre est assez haute et donc c'est assez un challenge assez passionnant. Mais c'est une coproduction que nous avons réalisée avec l'Opéra Comique à Paris, avec un metteur en scène au talent international reconnu, qui est Cyril Test, que je connais bien, que j'ai vu tout bébé, et qui était artiste associé avec moi à la scène nationale d'Annecy, il fut un temps, et dont j'apprécie énormément le travail. Déjà parce que c'est un des metteurs en scène qui réussit à intégrer le travail vidéo à une dramaturgie très structurée, presque à l'allemande, et puis il a beaucoup de précision plastique. Là, la scénographie est inspirée du travail du photographe artiste conceptuel allemand Thomas Domand. C'est très voluptueux, c'est très dessiné, et ça évoque un sujet terrible, puisque c'est un hymne saisissant à la liberté et à la justice. C'est un sujet très contemporain, mais Cyril s'inspire des prisons américaines comme métaphore du monde. Donc vous voyez, c'est tout un programme, mais ça raconte, somme toute, l'histoire d'une femme, puisqu'il y a beaucoup d'héroïnes féminines pas seulement dans le répertoire lyrique, mais à notre programme cette saison. Après Ariodante, Fidelio. Fidelio, c'est l'histoire d'une femme qui, entre guillemets, se travestit en gardien de prison, excusez du peu, pour essayer d'extirper son amant des geôles d'un tyran. Donc, évidemment, le risque est grand. Pas seulement d'être démasqué, mais de voir l'envers du pire.
Je sens, Dominique Pitoisek, si on reste sur la saison d'opéra, vous allez avoir envie de, mais ça peut nous emmener loin, de raconter les histoires, alors le dénominateur commun entre tout ça, c'est peut-être l'amour finalement, de Turandot ou Tosca, qui sont là aussi deux affiches auxquelles j'imagine vous tenez beaucoup.
Ah oui, j'y tiens d'autant plus que je mets en scène Tosca, mais que nous avons souhaité ce diptyque pour célébrer le 100e anniversaire de la disparition du maestro Puccini, pour lequel j'ai vraiment un faible prononcé. Je dirais presque pour moi, c'est l'enfance de l'opéra. Enfin, il y a quelque chose... Ça procède presque de l'art et de la transe, Puccini. Puccini, quand on aime l'opéra, nous sommes perméables finalement à la capacité émotive d'une musique qui quelquefois d'ailleurs nous fait un peu trop oublier le livret. Celui de Tosca est particulièrement tragique et il traite pas seulement du harcèlement, de la tentative de viol, mais également du crime et du suicide. Donc c'est un sujet sombre sur un texte originel écrit par Victorien Sardou et joué par Sarah Bernard. Mais c'est surtout une traversée finalement de la mise à l'épreuve d'une cantatrice, puisque nous mettons en scène, et c'est rare dans le répertoire lyrique, une chanteuse d'opéra. Tosca est chanteuse d'opéra. Donc Puccini va directement au mythe, puisqu'il met en scène, sans filtre finalement, une certaine réalité d'un monde qu'il connaît bien, surtout l'opéra italien. Et l'opéra italien, je dirais, venant du peuple, est issu des terres rurales du sud italien. Donc c'est très passionné, c'est très emporté, c'est très flamboyant, et c'est plein de chair traversée, et je crois que c'est ce qui fait le grand succès depuis si longtemps de cet opéra qui compte parmi les plus fameux du répertoire. J'en finirai pas avec Tosca, puisque nous avons un cast formidable autour de Deborah Wallman, notre chef associé. Il y aura Monica Zanettin, qui est une Tosca internationale magnifique. La prise de rôle pour le peintre Mario Cavaradossi, dont tout le monde connaît l'air du troisième acte, l'a entendu au moins une fois dans sa vie et vibre à chaque fois qu'il l'entend. Ce sera la prise de rôle du ténor français Jean-François Boras, une merveille. Là aussi, l'Opéra de Dijon joue son rôle des prises de rôle de chanteuses et chanteurs de très haut niveau qui viennent faire leur premier pas dans un rôle à l'Opéra de Dijon. Et puis le baron Scarpia, l'argentin Dario Solari, que nous avions déjà vu ici à Dijon et entendu dans Stifelio. Per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato.
triptyque se referme d'une certaine manière avec Turandot ?
Avec Turandot, bon, c'est déjà un des derniers opéras de Puccini. Là, la question féminine est très différente puisqu'il s'agit d'une protagoniste qui met à l'épreuve des prétendants qui souhaiteraient pas seulement épouser cette princesse, mais en obtenir tout le pouvoir qui l'accompagne. Et elle les passe à la question et elle les exécute. Elle leur coupe la tête s'ils ne répondent pas à ses attentes. Bien entendu, vous aurez déjà compris que l'un d'entre eux saura répondre et que toute la problématique dans cette Chine qu'Emmanuel Bastet souhaite mettre en scène, qui est une Chine de la surveillance, des vidéocaméras de surveillance, mais aussi de l'autosurveillance ou de la dénonciation, ça va être, bien entendu, la place de cette femme qui revendique sa liberté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement le jouet du pouvoir et des projections que son père peut exercer, ou des pressions que son père peut exercer sur elle. Et donc, dans ces questions de filiation et de transmission du pouvoir, il y a aussi une femme qui revendique tout simplement le fait d'être elle-même. Et comment se dégager de toutes ces contraintes, c'est un des plus grands sujets, je crois, de l'œuvre de Puccini, c'est la question de l'émancipation. D'autant plus que ces héroïnes ne s'émancipent pas, mais peuvent succomber.
Dominique Pitoisé, en vous écoutant, je me dis que vous vous attachez finalement à souligner la
contemporanéité.
Merci. De l'opéra.
Non, je ne vais pas jusque-là. Je m'arrête un peu avant. Je dirais, il y a quelque chose d'irrationnel dans l'instant lyrique, tel que je le définis. Ça consisterait à cette chose que je vais essayer de définir de manière très particulière. C'est un peu comme si vous aviez une fusée à mettre sur orbite et vous, vous préparez le pas de tir et les boosters. Et puis, quand cette fusée se détache en orbite, si vous voulez, ou après avoir été lancée de ses boosters et qu'elle est projetée dans les astres, ce serait cette émotion si particulière que nous pourrions appeler l'instant lyrique à l'opéra. C'est-à-dire que nous sommes comme des cuisinières et cuisiniers qui interrogeons un phénomène beaucoup plus intemporel qui procéderait, selon moi, un peu des rites de possession de notre société occidentale. C'est un peu tiré par les cheveux, peut-être, penserez-vous, mais en fait, il y a quelque chose d'intemporel dans le cri et dans la voix organisée, c'est-à-dire la manière dont elle traverse nos entrailles est dont elle nous fait part du mystère de l'humanité. Donc moi, c'est pas tant le livret contemporain, je saurais en écrire et en adapter en nombre, et je pourrais passer commande en nombre à des compositeurs, mais je dirais ce qui fait l'opéra, c'est plutôt ce mystère de l'être, de l'incarnation dans l'instant. Et avec les grands opéras, vous vous rendez compte que vous êtes traversé et que vous pouvez en porter des publics ou des communautés, parce qu'il y a un saisissement qui peut se produire. C'est ça le phénomène de l'opéra, et c'est sa particularité, indépendamment de la question du répertoire, qui effectivement, aujourd'hui, est un peu trop, je dirais, la redite du même. Mais les grands chefs-d'œuvre sont ceux qui ont à voir, finalement, avec des rites. Tout comme dans le théâtre japonais, il y a le théâtre no ou le kabuki, tout comme dans les sociétés primitives, il y a des danses qui sont des danses rituelles qui ont à voir avec cette idée de, allez, disons-le un peu de manière abrupte, de la possession, c'est-à-dire de la, de, c'est pas une question religieuse, c'est une question qui a à voir, si vous voulez, avec toute la ritualisation dans des communautés qui font qu'il y a des lieux dédiés à ça. Notre auditorium, d'une certaine manière, est très souvent un temple de l'écoute de grands. Ce n'est ni une église ni une cathédrale, c'est une maison du son qui vous enveloppe et qui vous projette dans le, finalement, dans le mystère de cette magie qui est la musique, qu'elle soit classique, musique du monde ou autre. Et avec la voix, il se produit autre chose. C'est l'interrogation sur qui sommes-nous.
Est-ce qu'au bout du compte, alors finalement, Dominique Pitoise, le rôle d'un patron de maison d'opéra, vous et les autres, c'est pas de faire en sorte que ces voix dont vous parlez beaucoup nous parlent vraiment aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la dimension intemporelle et je dirais presque subjective, et puis il y a d'un autre côté ce qui fait le théâtre et un peu le théâtre musical, c'est-à-dire le livret et le sens d'un texte de propos qui est manifeste. C'est-à-dire que vous avez deux étages. Vous avez une forme, pour le schématiser, c'est un peu trivial, pardon, mais on fait vite, une forme de verticalité, et puis sur l'autre plan, celui qui vous regarde, c'est-à-dire la scène, cette horizontalité de la planche de bois, vous avez des êtres qui s'adressent à vous directement et qui sont porteurs de sens, qui sont des êtres humains qui manifestent au travers d'histoires qui sont écrites, structurées, et nous essayons de choisir le plus souvent des livrets intelligents. Ça me fait rebondir sur un autre titre, qui est L'autre voyage de Franz Schubert, c'est-à-dire à partir de textes tirés de l'œuvre de Goethe, de Heine, des romantiques allemands. Sylvia Costa est une de ces jeunes metteuses en scène internationales, elle est italienne d'origine, ancienne assistante de Romeo Castellucci, qui a ce goût, pas seulement pour le montage, mais pour des dramaturgies qui sont des dramaturgies qui trouvent leur prolongement musical. Et pas seulement, elle est désormais très cotée. Disons, nous, nous avions eu la chance de la voir ici au Grand Théâtre à Dijon pour un de ses spectacles qui commençait à la mettre en perspective, la Julie de Bosmans. Et puis, elle nous reviendra avec Raphaël Pichon, plus repéré dans le domaine baroque, certes.
L'ensemble Pygmalion.
Magnifique, que nous avons plaisir à avoir ici et à accueillir ici à Dijon. Et Stéphane Degout, magnifique chanteur français. Ne laissez pas passer ce titre, qui sera pour le moins un peu troublant. Moi, mon amour pour le Sturm und Drang et les pré-romantiques allemands, évidemment, l'a emporté sur beaucoup de choses. Mais c'est parce que je viens de la littérature et je viens du théâtre parlé et de la dramaturgie. Donc, j'aborde toujours la problématique de l'opéra, déjà à un premier niveau, c'est-à-dire de quoi parlons-nous? Et puis, au-delà de ça, la musique, quel phénomène produit la musique, je dirais, en termes de plus-value. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des œuvres qui étaient un peu plates et qui trouvent toute leur dimension dans le domaine lyrique. Puis, il y en a d'autres qui ne se révèlent jamais. Le Faust de Goethe, puisqu'on parlait de lui, n'a jamais trouvé son compositeur. Et qu'on ne m'évoque pas ni Berlioz, ni Gounod, ce sont des fausses français qui, à mon goût, ont peu d'intérêt.
Valse de Faust de Gounod, extrait. C'est un clin d'œil, bien sûr, Dominique Pitoise. Alors, restons dans une certaine forme de liberté. Reynaldo Hahn, oh mon bel inconnu.
sur un livret de Sacha Guitry. J'avoue que là, comme dirait mon fils, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais nous avons besoin, dans une métropole comme la nôtre, dans une ville comme Dijon et dans notre région, d'entendre aussi que une grande partie de nos publics souhaitent ces musiques dites plus légères, sur des livrets qui leur donnent un peu la nostalgie de ce qu'ils imaginent aujourd'hui comme étant les grandes heures de l'opérette. Bon, tout ça est bien loin, et si nous étions en mesure de montrer ce qu'étaient ces réalisations, je pense qu'on aurait peu de monde dans les salles. Là, par contre, nous avons l'Orchestre des Frivolités Parisiennes. Et quand on a les Frivolités Parisiennes, pour ce type de répertoire, nous avons un gage et une garantie de qualité. Et puis, notre passion selon Saint-Jean, scénique, j'ai choisi de proposer à Leonardo Garcia Alarcón de revenir parmi nous, mais cette fois-ci avec une passion non plus seulement musicale, mais mise en scène, portée à la scène. Nous avons discuté de qui pourrait porter ce projet. Le choix s'est porté sur Sacha Valls, qui est la grande chorégraphe allemande que j'avais fait venir en temps et heure au Festival Théâtre en Mai, que je connais bien pour mes années berlinoises, parce que j'ai mis en scène et séjourné à la Schaubühne. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que cette opportunité est liée à tout un tissu de relations. Vous savez, en fait, ce qui fait la particularité de ce milieu, c'est pas seulement qu'il s'autorégule, c'est quelquefois malheureux, mais c'est surtout qu'il donne la possibilité de faire jouer ces relations cultivées sur le temps qui s'appellent finalement des engagements de confiance. Et avec Sacha Valls, nous sommes dans le... j'irais presque le meilleur de ce qui peut se proposer. C'est une coproduction avec le Théâtre des Champs-Élysées. Nous sommes producteurs et l'avant-première de cette présentation dijonnaise aura lieu au Festival de Salzbourg. C'est pas mal, sachant que le projet a de fortes chances de rebondir à Madrid et à Berlin. C'est plutôt une belle opportunité.
Ça veut dire qu'on a la préoccupation et la satisfaction des collaborations régionales, vous nous en parliez tout à l'heure, mais on a aussi, c'est pas une ambition, je pense pas, mais c'est une envie de partage, de rayonner à l'international pour prendre une formule un petit peu toute faite.
C'est un peu le cahier des charges, pardon, mais vous voyez avec les deux scènes et Anne Durand, leur directrice à Besançon, mais nous nous sommes associés en fait à leur belle production du compositeur français, du jeune compositeur français contemporain Othman Loati, qui a écrit une magnifique partition à partir du scénario des Ailes du désir de Wim Wenders. Et nous aurons une composition dite contemporaine sur la scène de notre grand théâtre, mais avec cette fabrique d'opéra qui est issue de Besançon et de toute une association de scènes nationales et d'opéra de nos provinces françaises pour pouvoir soutenir la nouvelle création, tout simplement. Donc, notre cahier des charges, c'est de marcher pas seulement sur deux jambes, mais c'est de favoriser les proximités, parce que nous avons constaté encore une fois lors de ce satané blocage Covid que tout ce qui était proche de nous était bienvenu, enfin était réconfortant d'une certaine manière et très actif, et que ce qui venait de très loin, finalement pénalisait les grosses maisons de diffusion ou de production. Elles étaient en panne. Pourquoi? Parce que il y avait plus de mobilité et tout s'arrêtait. Et donc j'espère que chacune et chacun d'entre nous a bien compris qu'aujourd'hui, des maisons comme les nôtres, l'Opéra de Dijon, c'est de faire des propositions assez larges, dans des domaines différents, dans des géographies différentes. Et puis surtout, c'est d'avoir des équipes qui sont capables de proposer la même qualité d'accueil et d'accompagnement pour toutes et tous. Donc oui, il y a quelques stars, mais parce que ça fait aussi l'économie du spectacle vivant. Mais si cette économie permet de favoriser ceux et celles que nous ne connaissons pas encore, ma foi, nous aurons réussi quelque chose.
Star justement et art de la scène, s'il en est, la danse, on n'en a pas parlé, il faut absolument l'évoquer. Je pense à Mourad Merzouki et sa Folia, qui en plus une histoire qui commence avec le concert de l'Hostel Dieu à Lyon. La danse aussi, alors Angelin Prège-Locage, excusez du peu, une création.
Mais nous avons une très belle programmation danse et elle fonctionne d'ailleurs très bien. Déjà en novembre, La Horde, le Ballet National de Marseille, je crois que tout le monde l'attend. Et puis il y a ce magnifique ballet de l'Opéra de Lyon, La Belle au Bois Dormant, la chorégraphie de Marcos Moreau en décembre. Alors attention, petite mise en garde, c'est pas tout à fait un spectacle jeune public. Hein. Magnifique folie colorée autour de Vivaldi avec Mourad, qui nous remplit nos salles et qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et puis, nous avons, si vous ne les connaissez pas, mais qui ne les connaît pas, mais la compagnie Peppington, la nouvelle création, dont je suis incapable de vous énoncer le titre, mais bien entendu le retour avec deux titres connus et une nouvelle création d'Angelin Prêle-Jocage au mois de mai. Et pour finir, la présence de Blancali, qui est une des chorégraphes vivant en France, que nous apprécions beaucoup, qui reviendra avec un Didon aîné à partir de la chorégraphie qu'elle avait réalisée pour William Christie pour un Didon aîné scénique. Cette fois-ci, elle récupère toute la musique et tout le cast en diffusion, qu'il n'y ait pas de malentendu, ils ne seront pas là, et elle ouvre la chorégraphie à toute sa compagnie, une douzaine de danseuses et danseurs, qui seront présents en scène et qui danseront Didon aîné sur les voix et les sons de cet enregistrement initial. Ça promet d'être un beau moment. Nous sommes assez fiers, vous l'aurez entendu, d'avoir des projets, si vous voulez, qui alternent les plaisirs. C'est une petite communauté que la nôtre dans laquelle nous sommes, et pour à la fois susciter des curiosités pour énorme bâtiment qui est l'auditorium, et puis essayer de démythifier le fait que ce n'est pas seulement un lieu intimidant, disons ça, voire même de consolation si nous devons être consolés de quelque chose, il y a bien des sujets. Mais c'est un lieu qui peut être aussi totalement festif. Il y a quelques jours, Richard Galliano et ses deux compères ont fait danser, ont fait se lever les gens, ils les ont même fait chanter. Il y a, je dirais presque comme un petit vent de plaisir et quelquefois de sensualité dans ces bâtiments. Restez pas à la maison, venez vers nous.
Je reviens vers les belles affiches, on va dire ça comme ça, Dominique Pitoiset. Alors, on a parlé évidemment de William Christie, on annonce aussi Philippe Hervègue, Raphaël Pichon. Le pianiste Bertrand Chamaillou, c'est quasiment un habitué de l'auditorium. Jérémy Rohrer, qui est peut-être plus habitué au Festival Baroque de Beaune.
Oui, mais si vous voulez, avec Jérémy, nous nous sommes accordés sur un programme Brahms, en partenariat avec une association que j'ai souhaitée avec d'autres qui regroupe les auditoriums de France, donc celui de Lyon, Aix-en-Provence, la Philharmonie de Paris, enfin, etc. Donc ça, c'est un programme, si vous voulez, où nous sommes plusieurs producteurs et nous accompagnons un artiste et son ensemble sur des titres spécifiques. Donc c'est un des programmes que Jérémy ne souhaitait pas porter dans le cadre que vous avez évoqué précédemment et qui est un cadre évidemment de qualité et très complémentaire. Mais vous parliez de Bertrand. Bon, bah Bertrand, si vous ne l'avez jamais entendu jouer Liszt ou Schumann, venez. Et puis il y aura ce petit bijou. Il jouera le Gaspard de la nuit de Ravel. Et moi, c'est toute mon enfance. C'est le jardin de l'Arquebuse à Dijon, où j'allais m'asseoir sur un banc après l'école à manger mon petit carré de chocolat en croquant mon petit pain au lait. Et puis, y avait le buste de ce drôle de type qui s'appelait Aloysius Bertrand. Et vous savez qu'Aloysius Bertrand a été chassé de la ville de Dijon en 1831 pour qu'il ne chahute pas à l'occasion de l'ouverture du grand théâtre dont on célébrait la fin des travaux au profit d'un auteur académicien, allez, on va lâcher le mot, réactionnaire dijonnais qui avait emporté le marché et qui craignait que Aloysius Bertrand, le grand poète dijonnais et français romantique, ne vienne perturber l'affaire.
Puisque vous avez évoqué le Grand Théâtre Dominique Pitoiset, salle indisponible en 2024.
C'est-à-dire qu'en fait, l'époque étant ce qu'elle est, à savoir que connaissez-vous beaucoup de projets de construction ou de rénovation ou de reconsidération de bâtiments culturels? Non, nous sommes en période de crise sociale, crise énergétique, crise climatique, les gens ont peur, il y a un repliement sur soi, etc. Nous le constatons tous, nous avons des maux de tête ou des maux d'estomac réguliers, il y a de l'agressivité un peu partout, l'inquiétude règne. Et cette souffrance qui s'appelle l'inquiétude, si vous voulez, elle a des effets immédiats. Comment voulez-vous expliquer à votre voisin ou à votre voisine, dans vos familles ou n'importe où, vos amis, que nous mettrions X millions dans la rénovation d'un grand théâtre, où certains d'entre eux, elles, diraient « mais on n'a pas autre chose à faire là, aujourd'hui ». Eh bien, nous avons fait le choix différent avec la ville de Dijon. C'est-à-dire, nous avons décidé de lisser les travaux sur plusieurs années, voire de nombreuses années.
Ce sera ma dernière question, Dominique Pitoiset. Vous avez prononcé le mot crise il y a quelques instants. Vous parlez de la ville de Dijon. Je reprends un mot de son maire que j'ai lu sur votre site internet. Est-il bien décent de célébrer la beauté par les temps qui courent? C'est ma question. Ou n'est-ce pas plutôt une urgence?
C'est ce qui fait humanité. J'ai choisi de revenir dans ma ville d'origine parce que la politique qui est menée aujourd'hui me convient. Et le choix de cette inscription passe par des valeurs. Et ces valeurs d'humanité me sont essentielles. Et si nous souhaitons nous engager quotidiennement afin d'établir, de rétablir ou de créer du lien grâce aux artistes, grâce aux œuvres, grâce aux répertoires, grâce aux créations nouvelles, c'est parce que nous croyons fondamentalement que c'est par la beauté et par amour de la vie contre l'infâme barbarie de la guerre que notre saison trouve sa légitimité. C'est mon seul engagement, je dirais, passionnel, celui-ci. C'est que il y a une acculturation générale qui nous prive finalement d'instants de grâce, de ce qui fait notre particularité d'êtres humains, d'animaux pensants, de ceux qui peuvent agir sur le monde autrement qu'en le détruisant. Et ça, c'est un message. Et c'est peut-être d'une certaine manière une dédicace.
Merci Dominique Pitoiset, directeur général de l'Opéra de Dijon. Beaucoup de...
Et artistique, s'il vous plaît.
Je n'oublie pas, monsieur le metteur en scène. Beaucoup de repères, beaucoup de spectacles, beaucoup de choses à voir, à aller à l'Opéra, aller au spectacle vivant. C'est là que ça se passe. On met les liens sur le site de BFC Classique.